Le journal Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Les Alpes-Maritimes bientôt sous le coup de restrictions supplémentaires pour lutter contre une flambée de l'épidémie de Covid-19. Olivier Véran l'évoquait dès hier. Les élus locaux en discutent aujourd'hui. Les habitants, eux, attendent d'en savoir plus sur leur sort. Nous serons en ligne avec notre invitée, la députée LREM des Alpes-Maritimes, Alexandra Valletta-Ardisson. Frédéric Vidal continue à alimenter la polémique après sa sortie sur l'islamo-gauchisme à l'université, qui lui vaut de vives réactions et des appels à la démission. Elle est en revanche soutenue à sa droite, notamment par Guillaume Pelletier. Il était l'invité il y a quelques minutes d'Ali Badou dans Questions politiques. La situation en Birmanie ressemble de plus en plus à un baril de poudre. 3 semaines après un coup d'état militaire, les manifestations pro-démocratie semblent faire face à des réactions de plus en plus brutales. 3 personnes sont mortes ces derniers jours. La colère monte dans la population, vous l'entendrez. Un cas de transmission de la grippe aviaire H5N8 à l'homme. La Russie assure avoir détecté le virus chez des employés. Des cas sans gravité, mais qui seraient une première pour cette maladie des employés d'une entreprise de volaille. Novak Djokovic ajoute un trophée à sa collection. Il vient de remporter son 9e Open d'Australie en battant Daniil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2. Et puis nous jetterons un œil au programme foot de ce soir. Le PSG reçoit Monaco. Un match au sommet du classement de la Ligue 1 où rien n'est joué d'avance.
France Inter.
Reconfiner le week-end, dissuader les touristes de venir, maintenir le couvre-feu à 18h, ce sont les pistes envisagées pour tenter d'endiguer la flambée de cas de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes. Une décision doit être prise dans la journée pour de nouvelles mesures restrictives. Il faut dire que le département affiche le taux de contamination le plus élevé de France, 740 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, entre 3 et 4 fois plus que la moyenne nationale. Une situation qui inquiète au niveau du gouvernement, mais une inquiétude qu'on ne retrouve pas forcément sur la côte niçoise. Reportage de Mathilde Vinceneuve.
Un grand soleil, des températures qui dépassent les 15 degrés, c'est un bonheur pour Miranda. Elle arrive de la région parisienne avec sa famille.
Ça fait beaucoup de bien, je suis en t-shirt, donc on a un sac rempli de pulls et de doudounes à la main, là, parce qu'on pensait pas qu'il ferait aussi bon. Mais bon, s'il faut partir, on partira, on va pas faire les malins et frauder, quoi.
Fermer le département aux touristes, l'idée séduit Elisabeth et Florence. Ces deux Niçoises s'inquiètent de la situation dans leur ville.
Vu où on en est, là, c'est mieux d'éviter pour le moment qu'il y ait trop de touristes qui viennent ici, quoi.
Ça ne concerne pas que les touristes, il y a aussi les gens qui viennent des départements autour.
Et oui, beaucoup viennent de l'arrière-pays ou de la région marseillaise. Catherine a fait une petite heure de route pour se jeter à l'eau.
Elle est extra bonne. Elle est vraiment très bonne. Ça fait énormément de bien, oui, franchement. C'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum.
Mais certains touristes préfèrent ne pas tenter leur chance, confirme Thierry. Il gère une 20aine de chambres à l'hôtel de la mer.
Ce matin, j'ai reçu 3 ou 4 annulations. Regardez, annulation 27 février, annulation 22, annulation 26.
Il redoute non seulement la fermeture du département, mais aussi un confinement le week-end qui viderait encore un peu plus son hôtel.
Mathilde Vinceneuve à Nice. Alors faut-il mettre les Alpes-Maritimes sous cloche, au moins certains jours? Pour en parler, nous recevons Alexandra Valletta-Ardisson, députée LREM. Bonjour madame.
Bonjour.
Pour commencer, où est-ce qu'on en est des discussions autour de ces nouvelles mesures? On se dirige vers quel scénario?
Alors écoutez, je suis aujourd'hui dans l'incapacité de vous dire vers quel scénario on se dirige. On attend l'annonce prochaine du préfet des Alpes-Maritimes suite, j'allais dire, à ce qui aurait été vu avec le ministre de la Santé. On a eu une grande réunion hier soir de plus de 2h30 avec l'ensemble des élus, la préfecture et les services de santé afin de pouvoir faire remonter justement certaines propositions. Celles que vous avez évoquées sur la fermeture potentielle, sauf évidemment motif impérieux des Alpes-Maritimes, font partie des mesures qui ont été évoquées, abordées, qui ont été remontées au ministre.
Vous parliez de discussion, on a l'impression que il y a une certaine unanimité politique sur le fait qu'il faut faire quelque chose, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur quoi.
Il y a une unanimité évidemment sur le fait que si on peut éviter un reconfinement général, il vaut mieux l'éviter. Il y a l'unanimité sur le fait qu'il faut trouver des moyens et renforcer les contrôles pour faire respecter au mieux les gestes barrières. Donc là, il y a une unanimité sur ce qui est un reconfinement plus localisé le week-end sur toute la bande littorale. Là, les discussions, j'allais dire, ont montré quelques désaccords. Ça sera appris au ministre de trancher.
Vous parliez d'un renforcement des contrôles. Ça passe par exemple par ce que demandait Christian Estrosi ce matin sur France Info, des moyens supplémentaires pour la police nationale sur place?
Évidemment, si à partir du moment où on veut que la population, alors la population locale est honnêtement assez respectueuse des gestes barrières, mais on voit bien qu'il y a un certain relâchement. Vous rajoutez à ça, on est en période de vacances scolaires, on a un temps particulièrement clément et agréable en ce moment dans les Alpes-Maritimes, donc on a un flux, et votre reportage a très bien démontré un flux aussi de touristes qui sont de plus en plus présents. Donc forcément, les gestes barrières sont un petit peu moins respectés. Donc si on augmente les mesures restrictives, il faut aussi des moyens de contrôler plus. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc oui, pour renforcer évidemment les mesures sanitaires, mais en parallèle, il faut forcément aussi des forces de l'ordre supplémentaires.
Vous parliez de l'afflux de touristes, justement, encore une fois, Christian Estrosi pointait ce matin du doigt ces touristes étrangers, notamment, estimant que les Niçois sont globalement assez responsables, mais il évoque par exemple 120 vols internationaux par jour pendant la période de Noël. On ne pouvait pas se permettre ça, il aurait fallu justement peut-être couper plus tôt l'afflux de touristes dans la région, dans le département.
Écoutez, je ne vais pas en venir sur les polémiques de ce qu'on aurait dû faire avant. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, si on peut limiter pour demain l'afflux de touristes, ce serait une bonne chose. Il faut aussi rappeler que les Alpes-Maritimes avaient été relativement, j'ai bien relativement, hein, parce qu'il faut aussi raison garder, mais épargnées depuis le début par rapport à la Covid. Nous sommes un des départements qui teste le plus en France aussi, donc ce qui peut expliquer aussi peut-être pourquoi on a aujourd'hui des chiffres qui sont un petit peu hauts. Donc, je veux dire, tout cumulé, les vacances scolaires, l'afflux de touristes, les variants qui sont extrêmement présents dans les Alpes-Maritimes font qu'on est dans l'obligation d'agir en responsabilité. Et il faut bien comprendre que ça ne fait plaisir à personne de prendre de nouvelles mesures restrictives, mais on n'a pas le choix. La santé des mares alpins doit primer. Et si on peut éviter un reconfinement général, laissons-nous l'occasion de tenter toutes les mesures possibles.
Est-ce que vous ne craignez pas justement que les habitants vivent mal ces nouvelles mesures? Quel retour vous avez un peu de la population là-dessus?
Alors écoutez, si je me base surtout au reportage que je viens d'écouter, a priori, certaines personnes semblaient plutôt, j'allais dire, bien accueillir le fait qu'on restreigne un petit peu l'entrée des Alpes-Maritimes aux personnes extérieures sur ce motif intérieur. Après, effectivement, un confinement le week-end sur la bande littorale ne peut pas faire plaisir à toute la population. Maintenant, la population est responsable et on sait très bien que si ça permet d'éviter un nombre de morts supplémentaires et surtout un reconfinement global, c'est peut-être, j'allais dire, un moindre mal par rapport à ce qui peut, le cas échéant, nous attendre si on doit reconfiner totalement.
Rapidement, d'autres villes, d'autres départements pourraient être concernés dans le futur par de telles mesures. Quels conseils vous auriez envie de donner à leurs élus locaux avec l'expérience que vous avez pu avoir ces dernières semaines dans les Alpes-Maritimes?
Ne pas relâcher, s'assurer vraiment que les gestes barrières soient respectés et le couvre-feu soit respecté le plus possible. Après, moi, j'ai confiance en gouvernement. J'allais dire, depuis le départ, il agit de manière graduée, proportionnée et on s'adapte vraiment aux situations. Donc, s'il faut aujourd'hui, malheureusement, faire un test dans les Alpes-Maritimes, de voir ce qui peut être fait en cas, j'allais dire, de zones rouges qui arriveraient un petit peu dans d'autres départements. Eh ben, écoutez, allons-y. Mais les élus sont responsables, la population est relativement responsable aussi. Donc, c'est une période particulièrement compliquée pour l'ensemble des Françaises et des Français. Ensemble, j'allais dire, essayons de passer les choses le mieux possible.
Merci beaucoup, Alexandra Valetard-Disson. On rappelle que vous êtes députée LREM des Alpes-Maritimes. Et justement, on le disait, qui d'autre après Nice et les Alpes-Maritimes? D'autres villes ou départements inquiètent les autorités, Dunkerque par exemple, ou la Moselle, qui affiche actuellement un taux d'incidence de 580 cas pour 100 000 habitants, contre plus de 700, on le rappelle, pour les Alpes-Maritimes. Écoutez, le maire de Metz, François Grosdidier, lui, s'agace de volte-face successives du gouvernement sur ces restrictions locales.
Ça fait des mois que c'est incohérence sur incohérence. On pensait en être sorti en octobre-novembre après les bévues de la première vague de la crise, lorsque le gouvernement avait fait prévaloir le couple préfet-maire pour prendre les mesures adaptées à chaque territoire. On est vite revenu à cette forme de centralisme bureaucratique et qui en plus ne suit pas véritablement de stratégie, mais prend des décisions au jour le jour et au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que même quand le ministre de la Santé est venu il y a un peu plus d'une semaine à Metz, voir la gravité de la situation, partager cette préoccupation et même nos analyses, il nous a dit en partant qu'il ne pouvait pas prendre de décision et qu'il verrait le soir même le président de la République. Et le lendemain matin, aucune décision n'était prise.
François Grosdidier au micro d'Edouard Marguier de France Info. Notez que la Moselle pourrait prochainement être classée comme zone à risque par l'Allemagne. Berlin doit étudier de nouvelles mesures demain. S'il choisissait cette option, les Allemands pourraient alors exiger un test négatif pour toute personne entrant sur son territoire depuis la Moselle, voire fermer sa frontière avec le département français. Notez aussi que la nuit dernière, deux fêtes clandestines réunissant chacune une centaine de personnes ont été interrompues en région parisienne, l'une dans un stade à Orly, l'autre au bord du périphérique. Les forces de l'ordre ont même dû interrompre la circulation pour y mettre fin. Au total, 10 personnes identifiées comme des organisateurs ont été interpellées et leur matériel sonore saisi. Information de nos confrères de France Bleu Paris. Frédéric Vidal veut aller jusqu'au bout de son idée d'enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Dans un entretien au JDD, la ministre de l'Enseignement supérieur dit vouloir une approche scientifique et rationnelle du sujet, sortir du ressenti et du présupposé, quelques jours après avoir elle-même ressenti et présupposé que, je cite, l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. Le CNRS chargé de cette enquête l'avait accepté à contre-cœur en dénonçant une polémique emblématique d'une instrumentalisation de la science quand plus de 600 universitaires ont signé dans Le Monde une tribune réclamant la démission de Frédéric Vidal. Côté politique, la droite observe la polémique et Guillaume Pelletier, vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale, soutient, lui, la ministre.
Je crois que Madame Vidal a raison de lancer justement une étude pour bien le comprendre, puisque plusieurs présidents d'université l'ont alerté sur un phénomène qui progresse. On a appris par exemple l'interdiction de la représentation de la pièce des suppléantes d'Eschyle. On a appris que certains chercheurs avaient...
C'est pas nouveau.
Est-ce que je viens de dire que ça venait de commencer?
Non.
Je dis que ça fait des décennies que ce phénomène progresse. Le refus de certains professeurs, elle le dit elle-même dans le journal du dimanche matin, de lire des textes de Charb. Tout ça, ça compte. Vous avez le droit de nier le phénomène. C'est votre droit le plus strict.
On essaie de mesurer, en fait.
Si on savait le quantifier, on aurait des réponses. C'est bien la raison pour laquelle Madame Vidal lance une enquête.
Guillaume Pelletier au micro d'Ali Badou sur France Inter. C'est une cérémonie très symbolique qui se déroulait ce matin à Marseille où le maire Benoît Payan a inauguré une avenue Ibrahim Ali dans le 15e arrondissement de la ville. Ibrahim Ali, du nom de ce jeune d'origine comorienne, tué par balle il y a 26 ans par un colleur d'affiche du Front National. Son nom remplace celui de la très longue avenue des Égalades, l'aboutissement d'un long combat pour sa famille et ses proches que la précédente municipalité avait jusqu'ici ignoré.
France Inter, le journal de 13h, Olivier Bénis.
Situation toujours explosive en Birmanie où avaient lieu tout à l'heure les funérailles d'une jeune femme de 20 ans mortellement blessée par balle le 9 février en marge d'un mouvement de protestation contre le coup d'État qui a permis aux militaires de reprendre le pouvoir dans le pays. Hier, deux personnes supplémentaires sont mortes pendant une manifestation à Mandalay, la journée la plus meurtrière depuis le début de la mobilisation pro-démocratie. Tous ces drames ont à nouveau poussé la population dans la rue, Carole Izou.
Après quelques heures d'hésitation ce matin, c'est finalement la colère qui l'a emporté sur la peur. Les Birmans sont sortis dans les rues en masse pour rendre hommage aux deux militants morts sous les balles de la police hier. La ville de Mandalay au nord inspire tout le pays par le courage de ses habitants qui organisent défilés et performances pour redire leur opposition à la junte malgré les risques. À Naypyidaw, la capitale, ont eu lieu les funérailles de Mia Twetwekine, une jeune fille de 19 ans décédée d'une blessure à la tête, première martyre du mouvement. Les partisans du mouvement de désobéissance civile refusent de céder à la terreur.
Nous rejetons les militaires. Nous ne les laisserons pas gagner par la peur. Ils doivent respecter nos votes, libérer nos dirigeants, libérer Aung San Suu Kyi. Nous voulons la démocratie maintenant.
Les arrestations continuent à se multiplier. Hier, l'un des acteurs les plus populaires du pays a été mis sous les verrous pour avoir exprimé son opposition à la junte. De nombreuses condamnations internationales, dont celle du secrétaire général de l'ONU, s'en sont suivies. Le réseau Facebook, moyen de communication le plus utilisé en Birmanie, a annoncé suspendre le compte de l'armée birmane. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
Le ton se durcit contre la Russie. Les ministres des Affaires étrangères européens vont étudier demain d'éventuelles sanctions pour violations répétées aux droits de l'homme de la part de Moscou. Une visioconférence à laquelle participera aussi le nouveau secrétaire d'État américain. Au menu de cette réunion également, on le disait, la réponse au coup d'État en Birmanie, le renforcement de la mainmise de la Chine sur Hong Kong et le dossier du nucléaire iranien. Et justement, le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en pleine tentative de désamorçage sur ce dossier. Raphaël Grossi a rencontré ce dimanche les responsables iraniens à Téhéran, alors que le pays avait fixé aujourd'hui la fin d'un ultimatum pour la levée des sanctions américaines. L'Iran menace de restreindre les inspections de l'AIEA sur ses sites, y compris des sites militaires suspects. C'est un virus dont on pensait qu'il ne concernait que les oiseaux sauvages et les volailles d'élevage, d'où son statut de grippe aviaire. Mais selon la Russie, le H5N8 pourrait se transmettre aussi à l'humain. Moscou assure avoir détecté un cas de transmission sous contrôle et en avoir informé l'OMS après avoir identifié le virus chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du sud du pays. Si cette transmission est avérée, ce serait la première fois que le H5N8 infecte des humains. Or, l'épidémie de grippe aviaire concerne plusieurs pays d'Europe, dont la France, où les autorités surveillent depuis des mois la situation. Ils attendent plus d'informations de la Russie pour savoir si l'on peut imaginer une telle contamination chez nous, Sophie Bécherel.
Depuis le premier cas de grippe aviaire détecté cette année en novembre en France, les autorités agricoles et sanitaires suivent le dossier de près. La grippe aviaire est transmise par le virus H5N8 aux oiseaux sauvages et aux volailles d'élevage. Elle est hautement contagieuse quand les volatiles sont concentrés, d'où des mesures d'abattage imposées aux éleveurs. Cette année, 461 foyers ont été détectés et 3 millions de canards abattus. Le ministère de l'Agriculture estime que l'épidémie est hautement sous contrôle, même s'il reste quelques foyers dans le sud-ouest. Depuis le début de l'hiver, le virus est régulièrement séquencé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Il reste trop éloigné de l'homme pour qu'une transmission à l'humain puisse avoir lieu. Que s'est-il alors passé en Russie pour avoir 7 cas? Le virus a-t-il largement muté? Certaines personnes ont-elles une plus grande sensibilité que d'autres? A-t-il simplement été détecté parce qu'on le recherchait? Pour savoir s'il y a lieu de s'alarmer, la France a besoin de comparer les séquençages des génomes. La Russie n'a toujours pas envoyé les informations à l'Organisation mondiale de la santé. Cette transmission du H5N8 des volailles à l'homme est en tout cas une première. Moscou affirme qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme.
7 400 000 électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui au Niger. Ils doivent désigner le successeur du président sortant, Mahamadou Issoufou. Tout va se jouer entre le favori, fidèle du précédent dirigeant, Mohamed Bazoum, et un autre ancien président, Mahamane Ousmane. Un scrutin sur fond d'insécurité avec des attaques régulières de groupes djihadistes dans le pays. État islamique d'un côté, Boko Haram de l'autre. Novak Djokovic, grand vainqueur de l'Open d'Australie 2021 pour la 9e fois de sa carrière. Il a vaincu le russe Daniil Medvedev en 3-7 en fin de matinée. C'est le 18e titre du Grand Chelem pour le meilleur joueur actuel du circuit mondial. Et il n'a laissé aucune chance à son adversaire Fabrice Abgral.
Il est le maître des lieux et il l'a encore prouvé. 9e finale et 9e titre à Melbourne, le 3e consécutif pour l'intraitable Novak Djokovic en démonstration de force aujourd'hui face à Daniil Medvedev. Incapable de rivaliser, incapable de sinon battre, du moins inquiéter le Serbe tout en contrôle dans cette finale qu'il a maîtrisée de bout en bout. 7-5-6-2-6-2, le score traduit à lui seul la domination du numéro 1 mondial beaucoup trop fort pour Daniil Medvedev. Le russe, qui restait pourtant sur 20 victoires d'affilée depuis novembre dernier, n'a jamais réussi à trouver la faille dans le jeu très solide de Novak Djokovic. Concentré, appliqué, autoritaire, sachant accélérer à bon escient pour faire la différence dans les moments clés de la rencontre. Daniil Medvedev, se sentant impuissant, a craqué nerveusement. Il était perdu sur le court, frustré et parfois même résigné, laissant l'intouchable Djokovic l'emporter au terme d'un match à sens unique d'1h53. Novak Djokovic a remporté son 18e titre en Grand Chelem, la moitié obtenue à Melbourne. Le numéro 1 mondial n'est plus qu'à deux longueurs du record absolu du nombre de titres majeurs co-détenus par Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 trophées chacun.
On passe au rugby et décidément le 15 de France commence à ressembler à un cluster à lui tout seul après Fabien Galthié, Antoine Dupont, Mohamed Aouas, Gabin Villière testé positif à la Covid-19. C'est au tour d'Arthur Vincent et Julien Marchand d'être eux aussi officiellement contaminés. Les Bleus doivent rencontrer l'Écosse le 28 février prochain. Antoine Dupont est d'ores et déjà forfait. Football à présent avec la 26e journée de Ligue 1 qui s'achève ce soir avec un choc au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille Monaco, deux équipes du top 4 qui vise toutes les deux le titre et une place en Ligue des Champions. Un affrontement qui s'annonce serré. L'AS Monaco est invaincu en 2021. Sa dernière défaite remonte au 16 décembre. De son côté, le PSG fait sans Neymar et Di Maria, mais se veut intraitable en championnat. On fait le point sur les enjeux de ce match avec vous, Cédric Guillou.
Avant la 26e journée, la saison passée, le Paris Saint-Germain caracolait en tête de la Ligue 1 avec 10 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, et 21 points de plus que le 3e, le Stade Rennais. Ce n'est absolument pas le cas cette année. Paris ne plane pas sur le championnat, mais reste le grand favori, selon l'entraîneur de Monaco, Niko Kovac.
Les équipes comme Lille, comme l'OL, comme l'AS Monaco, aujourd'hui performent beaucoup plus que la saison passée, mais je crois que le Paris Saint-Germain est évidemment la meilleure équipe de Ligue 1 et tout le monde s'attend, moi le premier, à ce que le PSG remporte le championnat encore cette saison.
Si Paris joue comme mardi à Barcelone, que Kylian Mbappé est toujours aussi étincelant, il n'aura effectivement aucun concurrent en France pour le reste de la saison. Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien.
Paris Saint-Germain se doit de gagner chaque match. On est conscient de la responsabilité. On ne doit pas laisser la place au relâchement.
Le Paris Saint-Germain veut donc rester en mode Ligue des Champions pour le reste de la saison. Ce n'est pas forcément rassurant pour l'AS Monaco et les autres candidats au titre.
Coup d'envoi ce soir à 21h. On jette un œil vers le ciel à présent.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et le temps est toujours doux et ça va durer, Jean-Michel Golinski.
Grande douceur à la une, au moins jusqu'en milieu de semaine. Cet après-midi, la plupart des valeurs va se situer entre 8 et 10 degrés au-dessus des normales, avec des extrêmes à 22 ou 24 pour le Pays Basque. Et la carte du temps sensible est pratiquement identique à celle d'hier, avec le maintien d'un ciel maussade sur le Languedoc-le-Roussillon et les départements de l'Ouest-Bretagne. Ailleurs, temps sec et ensoleillé, mais devenant plus voilé sur un axe Basse-Normandie-Limousin-Pyrénées, avec beaucoup de vent pour la moitié sud, un vent particulièrement turbulent dans le domaine de l'OTAN, autour de la Méditerranée, ainsi que sur le relief du Massif central et des Pyrénées. Demain, il va pleuvoir sur la partie ouest, entre l'océan, la Normandie, le centre et le golfe du Lion, avec des précipitations drues sur le massif du Languedoc et du Roussillon, de la neige sur les Pyrénées, avec toujours beaucoup de vent sur les régions méridionales. Ailleurs, maintien d'un temps sec et de plus en plus ensoleillé en allant vers l'est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.